Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour que tous les enfants puissent aller à l'école en France. Le constat du coordinateur du collectif Handicap, Stéphane Lenoir, qui reviendra notamment sur les propos du candidat à la présidentielle Éric Zemmour, qui parle d'obsession de l'inclusion. Stéphane Lenoir dénonce des propos discriminatoires. Il sera l'un de nos invités. Une nouvelle journée de manifestation contre le pouvoir militaire. Lundi au Soudan, 7 manifestants ont été tués. Plus de 40 migrants sont morts dans un naufrage au large du Maroc. Les victimes se dirigeaient vers l'Espagne. La question des droits des femmes a toujours été reléguée au second plan au Liban. Le constat de Mira Abdallah, responsable de la communication du programme Women in News à l'Association mondiale des journaux, nous l'écouterons. Les équipes de secours recherchent des survivants après le tremblement de terre qui a frappé l'ouest de l'Afghanistan. Plus d'une vingtaine de personnes a été tuées. La Coupe d'Afrique des Nations, troisième et dernière journée de la phase de poule, ce mardi, face à face Gabon-Maroc à 20h. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Guillaume Chabandelmas, conseiller municipal à Bordeaux et délégué du parti Horizon à Bordeaux, extrait dans votre édition. La crise du secteur médico-social est profonde en France. Un cri d'alarme formulé par le collectif Handicap. L'ONG déplore l'absence de réponse de l'État face aux personnes handicapées en souffrance. Entretien avec le coordinateur du collectif Handicap, Stéphane Lenoir.
Nous, on constate aujourd'hui que l'État n'apporte absolument pas de réponse aux situations d'urgence qui sont provoquées aujourd'hui en établissement ou à domicile par les effets collatéraux du Ségur. Et donc, nous, ce qu'on demande très concrètement à l'État, c'est de mettre en place des mesures d'urgence et notamment de revaloriser tous les professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent être accompagnées convenablement. Et nous demandons également pour les services et établissements qui sont en grande difficulté, un soutien immédiat de la part des départements ou de l'État pour stopper les actes de maltraitance et de mise en danger des personnes que nous constatons tous les jours.
Ces actes de maltraitance, de mise en danger que vous constatez, dites-vous, comment elles se traduisent?
Ça se traduit très concrètement par des personnes qui ont une douche par semaine, par exemple. Ça se traduit par des personnes qui ne sont pas levées ou levées trop tardivement le matin. C'est des prises de repas qui sont retardées. Ce sont des sondes qu'on installe pour les personnes parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour que ces personnes en situation de handicap puissent manger avec tout le monde. Ce sont parfois aussi des intérimaires que les services ou les établissements sont obligés de recruter et qui ne connaissent pas la situation des personnes et qui peuvent dégrader la santé des personnes. Depuis plus d'un an, nous avons ces retours. On alerte la secrétaire d'État et aujourd'hui, nous constatons que les mesures annoncées par le gouvernement ne suffisent pas à répondre à l'urgence. Et donc nous exhortons le gouvernement à prendre toutes les mesures d'urgence pour éviter ces situations.
Et ces situations, ces violences que vous dénoncez, elles se déroulent dans des centres médico-sociaux par exemple?
Ces actions, elles peuvent se dérouler également à domicile. Hein. Donc effectivement, dans les établissements médico-sociaux et notamment dans ceux qui accueillent des personnes qui ont besoin d'accompagnement complexe, puisque pour ces personnes-là, dès lors qu'il manque du personnel, on a des ruptures, de toute façon déjà des ruptures d'action éducative, mais aussi, et c'est finalement le plus grave, des ruptures de soins. Donc c'est ce que nous dénonçons depuis plus d'un an. Mais encore une fois, hein, ces situations, elles peuvent aussi se retrouver à domicile. Si vous avez des services qui n'ont pas assez de personnel pour intervenir à leur souhaiter à domicile, bah, ça veut dire que des personnes sont levées trop tardivement, mangent trop tôt le soir, par exemple. Hein, vous pourriez avoir un service qui passe à 18h pour préparer le repas, alors que les habitudes de vie de la personne, c'est plutôt de manger vers 20h ou 21h. Donc voilà, ça, tout ça, c'est ce que nous appelons, nous, des actes de maltraitance qui sont directement liés à la politique du gouvernement.
Justement, pourquoi estimez-vous que le Ségur de la Santé a exacerbé cette crise du secteur médico-social, cette crise que vous qualifiez de profonde?
Alors vous avez raison, le Ségur de la Santé a exacerbé en fait une situation qui existait déjà avant, c'est-à-dire que dans le secteur médico-social, vous aviez des métiers en tension et donc les employeurs avaient du mal à recruter. Une fois que le gouvernement a adopté les mesures du Ségur de la Santé, en fait ça a créé des fuites de personnel. puisque vous aviez par exemple les professionnels du sanitaire qui avaient été revalorisés, mais pas ceux du médico-social. Par exemple, pour un même poste d'infirmière, c'était plus avantageux pour elle d'aller travailler dans le secteur sanitaire puisqu'elle était mieux revalorisée. Et donc, une fois que vous avez moins de personnel déjà dans une situation de tension sur le marché, vous aviez une fuite, et on a toujours une fuite de personnel dans les établissements médico-sociaux, pas que pour les infirmières, on retrouve aussi les mêmes difficultés. Pour des postes comme des éducateurs, des assistantes sociales, des kinésithérapeutes. Donc ça crée un dysfonctionnement et des ruptures d'accompagnement au sein de ces établissements. Enfin, vous pouvez même avoir aujourd'hui des concurrences entre établissements, ou quand vous avez des établissements qui ont des personnels aussi sur des départements différents, ou vous avez des concurrences entre professionnels. Donc pour l'employeur, c'est quand même extrêmement compliqué à gérer.
La question du handicap a fait son entrée, si je puis dire, dans la campagne présidentielle avec une polémique liée aux propos du candidat Éric Zemmour qui a dénoncé une obsession de l'inclusion. Comment avez-vous accueilli ce propos ?
Dans un premier temps, on regrette que le sujet du handicap émerge dans la campagne par des propos qui sont complètement rétrogrades de la part du candidat Éric Zemmour. Nous, la vision que nous portons, c'est une vision, enfin c'est une approche par les droits. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, très clairement en termes de scolarisation, c'est de savoir si les enfants de la République vont tous à l'école ou bénéficient tous d'une scolarisation. Malheureusement, on constate que ce n'est pas le cas. Il est vrai qu'il y a eu des avancées, mais néanmoins, aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, c'est que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que tous les enfants puissent aller à l'école, et notamment ceux qui ont des besoins d'accompagnement complexes.
Vous souhaitez justement que ces conditions soient réunies et que cette inclusion soit réellement mise en œuvre.
Oui, tout à fait. Quand on parle d'inclusion, on parle vraiment finalement de droit. Qui accepterait aujourd'hui que son enfant ne puisse pas aller à l'école ? Strictement personne. Donc là, on est bien sur une question de droit, et le droit des enfants, c'est d'aller à l'école, et notamment à l'école ordinaire et proche de son domicile. Et donc pour que cela puisse se réaliser, il faut un certain nombre de conditions liées par exemple à l'accessibilité des locaux, à des outils pédagogiques adaptés, à des AESH avec un véritable statut, ou encore des enseignants qui sont complètement formés. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et pour tendre vers cette inclusion dont on parle tant, il faut absolument remplir ces conditions.
Et c'est une chance pour l'ensemble des élèves, à la fois pour les élèves en situation de handicap, mais aussi pour les autres élèves, le fait d'être ensemble à l'école.
Ça permet aux enfants de se connaître, d'être aussi avec des enfants d'une même classe d'âge. C'est aussi ça qui est important, et qu'effectivement chacun apprenne des uns et des autres, et qu'ils apprennent que chacun peut aussi fonctionner différemment. Je crois que c'est aussi le rôle de l'école, voilà, de savoir que chaque enfant peut apprendre différemment, un mode de fonctionnement différent. C'est ce qui importe le plus.
Le coordinateur du collectif Handicap, Stéphane Lenoir. Un drame au large du sud du Maroc. 43 migrants sont morts après le naufrage de leur embarcation au large de Tarfaya. Ils se dirigeaient vers l'Espagne. C'est ce qu'indique l'ONG espagnole Caminando Fronteras. La majorité des victimes est originaire d'Afrique subsaharienne. L'ONG précise que seuls 2 corps ont pu être récupérés. Cette ONG établit ses bilans sur la base de témoignages des survivants ou des familles des migrants. 10 personnes à bord de l'embarcation ont pu être secourues. Le Soudan a vécu lundi l'une des journées les plus sanglantes dans la répression de la mobilisation contre le pouvoir militaire. Au moins 7 manifestants ont été tués, et c'est dans ce contexte que 2 émissaires américains se rendent à Khartoum pour demander aux forces de sécurité soudanaises de mettre fin à la violence contre les manifestants. Une dizaine de personnes a été tuée à Sanaa au Yémen dans la nuit de lundi à mardi dans des raids de la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite, des raids en riposte à une attaque meurtrière des rebelles yéménites aux Émirats Arabes Unis. Les rebelles houthis ont ciblé lundi des installations civiles aux Émirats, une attaque qui a fait 3 morts. Elle a suscité des condamnations internationales de pays arabes et occidentaux. Les équipes de secours recherchent des survivants après le tremblement de terre qui a frappé l'ouest de l'Afghanistan. Au moins 26 personnes ont été tuées, la plupart par l'effondrement des toits de leur maison. Cela arrive alors que le pays est en proie à une situation humanitaire catastrophique, une situation aggravée. aggravée par le retour au pouvoir des talibans en août dernier, donnant lieu à la suspension de l'aide internationale massive qui finançait près de 80% du budget du pays. Le Liban doit-il faire évoluer les droits des femmes à l'occasion des législatives organisées cette année? Parmi les sujets à l'ordre du jour, la question du mariage civil, les violences conjugales ou encore la parité en politique, des droits qui ont reculé avec la crise économique et sanitaire, selon Mira Abdallah, responsable de la communication du programme Women in News à l'Assemblée mondiale des journaux.
Je crois qu'au Liban, depuis toujours, la question des droits des femmes a été passée au second plan parce qu'on a toujours eu des crises politiques, des conflits au pays. Et toujours, on entend la réponse, c'est pas le temps de parler des droits des femmes. Mais je crois que pendant les dernières années, il y a eu beaucoup de mobilisation en ce qui concerne cela, spécifiquement en ce qui concerne les lois. Donc on a de nouvelles lois qui concernent la violence domestique contre les femmes, une nouvelle loi qui a été passée depuis un an en ce qui concerne l'harcèlement sexuel contre les femmes au milieu de travail. Donc il y a beaucoup de choses donc des petites victoires pour les droits des femmes. Mais maintenant, pendant la crise économique, on revient toujours à entendre que bon, c'est pas le temps de parler des droits des femmes, bien que les femmes sont en train de subir les mêmes conséquences de cette crise, sinon un peu plus.
Sinon un peu plus, dites-vous, est-ce que cette crise a abouti à une augmentation, par exemple, des violences contre les femmes, comme cela s'est passé dans d'autres pays du monde?
Oui. Oui, au Liban, surtout avec le Covid, on a eu des cas de violences domestiques qui ont augmenté. Et en plus, la crise économique a aussi augmenté la discrimination contre les femmes, parce que bon, des exemples de compagnies qui sont en train de fermer ou qui sont en train de réduire le nombre d'employés, c'est toujours les femmes qui sont demandées de rester à la maison, parce que on a toujours la culture que les hommes ce sont les responsables des familles, les responsables financiers dans la famille. Donc c'est une chose. L'autre, pour les produits qui ont été supportés par des projets financiers du gouvernement, toujours les produits qui concernent les femmes n'étaient pas inclus, par exemple les serviettes hygiéniques.
Alors, en tant que militante pour les droits des femmes, quelles sont les réformes que vous souhaitez voir mises en œuvre à l'occasion des prochaines législatives au Liban?
Tout ce qui concerne les lois de la violence domestique, surtout la violence économique contre les femmes, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que la loi qui concerne l'harcèlement sexuel doit être élaborée et pour qu'elle au moins inclue pas seulement les milieux de travail, mais aussi les places publiques, par exemple dans la rue ou n'importe quel autre endroit, pas seulement dans les milieux publics. Et l'autre chose, c'est le droit de garde des enfants, parce que au Liban, c'est toujours les tribunaux religieux qui sont en train de gérer ça, et les femmes n'ont toujours pas le droit de garde des enfants. Ça dépend de chaque religion, mais on parle parfois à partir de 3 ans jusqu'à 10 ans.
Mira Abdallah, responsable de la communication du programme Women in News à l'Association mondiale des journaux, elle répondait à Loïc Barrière. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Guillaume Chabon-Delmas, conseiller municipal à Bordeaux et délégué du parti Horizon à Bordeaux, un parti fondé par Édouard Philippe et qui soutient le président Macron. Il explique pourquoi le parti a décidé de créer des comités dans une centaine de villes de France, extrait de cette émission.
Horizon a décidé de se structurer en accordant une place très importante, cruciale aux élus locaux et aux maires notamment, chose qui n'était pas du tout le cas du côté de La République En Marche, qui, de l'aveu de tous, souffre encore aujourd'hui d'un manque d'ancrage local. On l'a vu aux différentes élections, qu'elles soient municipales ou régionales, il y a une grosse difficulté du côté de La République En Marche pour s'implanter durablement dans les territoires. Donc c'est avant tout cette approche de terrain, de retour d'expérience des élus locaux qui m'a plu au sein d'Horizon, et puis également la philosophie qui est celle qui habite Édouard Philippe et je crois tous les membres d'Horizon aujourd'hui. C'était avec l'intérêt et la volonté de se dire qu'on essayait de se projeter dans 10, 20 ou 30 ans et ne pas sans arrêt réagir à l'immédiateté et aux différentes polémiques qu'il peut y avoir. Et c'est tout à fait ça en fait. Moi, quand Édouard Philippe se projette loin, ça me parle. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont, voilà, nos concitoyens ont envie de réfléchir à l'avenir, de se projeter loin, de faire que la France, dans 20, 30 ou 40 ans, on puisse être fier de notre pays. Et c'est l'approche qui est défendue par Édouard Philippe et par Horizon. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de m'engager derrière lui.
Guillaume Chaban-Delmas, conseiller municipal à Bordeaux et délégué du parti Horizon à Bordeaux. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. La troisième et dernière journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, les groupes B et C livrent leur verdict ce mardi dans le groupe B depuis 17h face à face Zimbabwe, Guinée et Malawi, Sénégal. À 20h dans le groupe C, le Gabon affronte le Maroc et le Ghana joue face aux Comores. Après le mouvement des enseignants jeudi dernier, des syndicats appellent à nouveau à la grève jeudi prochain. Émission rencontre ce mardi soir à 21h avec le secrétaire général de la FSU Benoît Test. Émission rediffusée ce mercredi matin après le flash de 10h. Benoît Test reviendra également au cours de cet entretien sur la question de l'inclusion des élèves en situation de handicap. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.